Je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait regarder un peu précisément comment ça marche. Hein. Alors, on a un peu de questions et puis ensuite on enchaînera avec Gaël Auraud qui va faire la vision d'un territoire qui sera la métropole rennaise, qui regardera aussi elle les questions de mise en œuvre. Puisque vous avez compris que le leitmotiv de Perrin-Soulière, c'est que les politiques publiques, c'est de la mise en œuvre, de la mise en œuvre et de la mise en œuvre.
C'est une bonne réflexion et merci pour votre exposé assez brillant et qui en tout cas nous bouscule. D'autres réflexions, on sent dans votre grande expérience une capacité d'auto-évaluation assez importante sur l'auto-évaluation de ce que fait l'administration centrale. Deux réflexions. La convention fixe, à partir du moment où au niveau central, on sent quand même que vous êtes un peu démunis, je ne comprends pas tout à fait la position par exemple sur la convention citoyenne. Je pense qu'on est dans une période où il faut expérimenter tous azimuts et sans a priori, donc je suis interrogatif par rapport à votre position par rapport à ça, en quoi une convention citoyenne serait moins légitime que les 15 ou 20 fonctionnaires que vous avez mentionnés. Ensuite, sur l'organisation de l'État, moi je suis responsable d'un SCOT sur un périmètre assez important. En effet, on aurait besoin de personne ne dénie le rôle de l'État. Les élus locaux en ont besoin en tant que les élus locaux ont besoin de deux aiguillons, ce qu'ils nous disent pour faire des plans ambitieux. C'est mettez-nous la société civile aux fesses, hein, c'est ce que nous disent les élus, parce qu'ils sont tellement dans les contraintes de gestion du quotidien qu'ils ont besoin de pouvoir aussi dire voilà, moi je prends les décisions parce que j'ai aussi, je réponds à un besoin citoyen. Et un État éclairé, c'est-à-dire que souvent l'État intervient dans les stratégies, dans les PCAET, en correcteur de copie ou en déporté à connaissance, donc, alors qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des administrations locales plus importantes qui soient partie prenante des débats et qui prennent des risques aussi avec une certaine capacité de subsidiarité entre l'État national et l'État local pour pouvoir vraiment avoir ce dialogue. Attention, par contre, à toutes les réformes institutionnelles qui ont déjà beaucoup déstabilisé, par exemple, le mandat qui se termine et qui nous font perdre du temps sur le court terme, en tout cas.
On va peut-être prendre trois questions à la fois. Non, tout le monde attend la question qui arrive. Oui.
Oui, bonjour, Vincent Chéry, DDTM du Var, ingénieur du pont. J'avais deux, c'est plus des témoignages. Quand à la démission Nicolas Hulot a dit sur les ondes, je suis seul. Et ça avait été interprété beaucoup, seul face au lobby, face à la société, face au monde de l'entreprise. Mais je pense qu'il était seul. Enfin, il y a eu un débriefing interne à l'État, fait par les DREAL notamment, pour dire que ce message était adressé aussi à sa propre administration. Mm-hmm. Et ça, ça m'a profondément marqué. Et puis simplement une anecdote que je disais hier à Patrick Le Gallès. Je travaillais dans le Var, sur le golfe de Saint-Tropez. En fait, j'ai des collègues, ma direction, la DDTM, le sous-préfet, on met beaucoup d'énergie à trouver des surfaces, des stations pour les élites qui sont sur le golfe de Saint-Tropez pendant l'été. Et vraiment, on met une énergie assez incroyable parce qu'il y a un enjeu très fort pour permettre les vols en hélico sur cette zone. Je me suis permis il y a un mois de dire, mais est-ce que c'est notre rôle d'accompagner ça? Et le sous-préfet, qui est un mec sympa, si je m'entends bien, et mon collègue directeur, elle m'a dit, mais t'as une autre solution? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si j'ai une autre solution, mais ce que je propose, c'est qu'on aille les accompagner et les aider. Enfin, voilà, pour illustrer qu'effectivement, je pense que la structuration d'administration, je rejoins tout à fait, je pense qu'on est très tiède, en fait, dans nos propositions et dans notre accompagnement. Voilà.
troisième. J'avais une question, mais ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Vous nous avez beaucoup parlé...
Je pense que c'est intéressant de vous présenter.
Pardon, oui, Rémi Orlin, Banque des Territoires, Nouvelle-Aquitaine. Vous nous avez beaucoup parlé d'administration centrale de l'État. Vous nous avez évoqué aussi ce qui se passait au niveau des collectivités. Moi, j'aimerais avoir votre regard sur ce qui se passe au niveau de l'administration déconcentrée de l'État. L'articulation entre préfets, DREAL, DDTM, les DRAF, les directions régionales de l'ADEME, ce qui s'y fait ou pas.
Alors, comme
je viens de me rendre compte avec terreur qu'au lieu de parler 25 minutes, tu parles une heure, je vais vraiment être extrêmement rapide. Là, je ne voudrais pas que vous mépreniez sur ce que j'ai dit sur la Convention citoyenne. Je trouve que c'est une expérimentation très intéressante. Pour reprendre votre expression, je partage tout à fait ça. Ce que, en revanche, je trouve que sa légitimité est d'abord une légitimité décidée par le gouvernement. Et ça a été, souvenez-vous, le grand débat qu'il y a eu, qui a été un peu faussé par des choses quand même assez basses, avec Mme Joanneau, je veux dire. La Convention citoyenne, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas la première, puisqu'on avait fait une en 98, en l'occurrence, est une expérimentation mais vraiment passionnante, qui a une légitimité parmi d'autres expérimentations. Sa faiblesse, enfin pas sa faiblesse, mais oui, si sa petite faiblesse, c'est que c'est une expérimentation décrétée. Or, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'expérimentations qui viennent justement des citoyens eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Ce que je critique dans cette expérimentation, c'est le fait que, quels que soient les résultats de ce que les citoyens décideront, on a décidé, en l'occurrence le gouvernement, le président de la République, a décidé que ça serait tellement légitime qu'il faut immédiatement ou bien l'adopter par référendum ou bien l'adopter par un texte de loi. Alors ça, bon, ça, au moins ça rebascule dans la légitimité. Ça va beaucoup plus loin que l'environnement. Ce que je crois personnellement, mais là vraiment c'est des propos tout à fait personnels, hein, ce que je crois personnellement, c'est que notre démocratie est fragile. Elle est fragile, on s'en rend quand même compte depuis 2 ans, et que la critique de la démocratie représentative, qui est effectivement légitime, puisqu'elle fonctionne assez mal en ce moment, elle ne représente plus les Français, mais ne doit pas aller aussi loin que de la jusqu'à la délégitimer complètement, parce que c'est extraordinairement dangereux. Dans une époque où toutes sortes de personnes considèrent que des régimes autoritaires seraient plus à même de faire face à un certain nombre de problèmes. Autrement dit, ce que je dis, c'est que c'est une expérimentation intéressante parmi d'autres et qu'il faut trouver un débat qui fasse correspondre, qui fasse que ce type d'expérimentation soit une brique apportée à la rénovation des institutions, mais n'entraîne pas un éclat de rire, comme j'entends parfois, sur la démocratie représentative. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Deuxième observation, alors oui, évidemment, là je ne vais pas commenter parce que je suis entièrement d'accord avec vous, il faut absolument réinventer une subsidiarité, ça c'est clair. Voilà, je veux dire, ça c'est un autre débat, enfin je veux dire, si je me lance là-dedans, j'éclate la matinée, je suis déjà traumatisé là-dessus. Deuxièmement, Nicolas Hénoué, quand il dit « je suis sud », alors je pense qu'il pensait très fortement au ministre de l'Agriculture quand même, hein, quand il disait ça, il faut quand même se reporter ça à l'histoire, mais je pense effectivement qu'il ne se sentait pas porté par... par son administration. Alors, il y avait d'autres choses, hein, je veux dire, c'est pas non plus un grand administrateur, Nicolas Hulot. Donc, il avait aussi des comportements personnels qui pouvaient choquer sur l'administration, etc. Voilà, on peut considérer que, toutes sortes de choses. Mais ça illustre un petit peu ce que je me suis permis de dire. Alors, votre histoire de Saint-Tropez, c'est absolument extraordinaire. Alors, il y a les hélicoptères pour amener. Alors, en d'autres temps, j'aurais dit Johnny Hallyday, mais maintenant, je vais dire sa veuve. Par ailleurs, il y a aussi les hélicoptères qui distribuent de la neige sur les stations. Hein, ouais. À la limite, c'est pareil. Bon. Alors, ça, derrière ça, vous avez un débat tout à fait important. À ce colloque sur l'adaptation, Elisabeth Borne l'a ouverte, et moi, je lui ai posé la question. C'est ce que Michel Barnier, dans des temps très anciens, a, quand il était ministre de l'Environnement, c'est-à-dire sous Balladur, Mitterrand quand même, appelait le contrat au lieu de la contrainte. Ça, c'est le cœur de l'interrogation qu'on a par rapport au problème d'environnement. Ce type de choses, moi, si vous voulez savoir ce que j'en pense, il faut interdire. Et maintenant, il va quand même falloir y arriver. Il faut interdire de déverser de la neige artificielle sur le sommet et exploser les émissions d'effet de serre par les hélicoptères. Il y a quand même une part de choses qu'il faut interdire. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, étant donné la conscience quand même d'un certain nombre de milieux culturels, de vedettes, etc., le type qui fait une conférence de presse en disant c'est scandaleux qu'on interdise de venir en hélicoptère sur mon yacht, bon courage au niveau médiatique quand même. Hein. Donc ça quand même ça aide, je veux dire. Hein. Ça aurait peut-être marché il y a 10 ans, mais maintenant ça marche moins. Le problème est plus intéressant, c'est est-ce que les gens vont aller ailleurs que Saint-Tropez, parce que c'est ça votre sujet, parce qu'il n'y a pas assez d'héliports, et est-ce qu'ils vont aller dans des pays où, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, si vous voulez, la Jet Society ne va pas en Arabie Saoudite, vous voyez, hein, parce que, bon, donc, tout va bien, je veux dire, voilà. Et il faut le train, c'est un truc formidable.
Ils vont à Dubaï, voilà. Hein.
Bon. Oui, ils vont à Dubaï, mais pas l'été.
Non.
Bon, d'accord. Voilà. Alors, dernière question. Moi, je n'ai pas le temps de dire jusqu'à... Alors, ce que vous posez le problème, c'est la déconcentration. Alors là, j'ai trois choses à dire. Premièrement, les préfets, qui sont les coordonnateurs des administrations centrales, n'ont pas assez de culture environnementale. Les préfets n'ont pas assez de culture environnementale parce que l'ENA n'a jamais enseigné l'environnement. C'est d'ailleurs un des sujets moi, que j'ai soufflé à Véry Thirier quand il a fait sa réforme de l'ENA. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il y a de drame, mais enfin voilà. De temps en temps, l'ENA, il y a des petits séminaires comme ça, gentils sur le climat, etc. Et vous n'avez absolument pas d'enseignement structurant là-dessus. Donc forcément, les préfets, ils sortent à moitié de l'ENA et voilà, finalement, ils lisent des journaux. Bon. En plus, après, ils passent au ministère de l'Intérieur et c'est quand même pas... Le ministère de l'Intérieur n'est quand même pas un vivier d'écologistes. Bon. Donc, si vous voulez, il est absolument certain qu'ils n'ont pas d'éducation là-dessus. Ça, c'est le problème des préfets. Et d'autre part, il faut bien dire que les préfets sont faits pour maintenir un certain ordre et que quand même nos amis écologistes, les zadistes, etc., c'est quand même un ordre tous les jours. Donc voilà. Il y a un deuxième sujet qui est les administrations. Là, de toute façon, vous avez ce que j'ai dit sur le fait que l'administration d'équipement était... dominante au ministère de l'Environnement est beaucoup plus forte au niveau déconcentré qu'au niveau national. Beaucoup plus forte. Tout simplement parce que vous avez une demande des élus au plus près et les élus, sauf vraiment certains, et ce qu'ils demandent, c'est des routes. Je suis désolée. Ils demandent des routes, ils demandent des constructions. Voilà. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Il ne faut pas exagérer. Et jusqu'à une période extraordinairement récente, Et d'ailleurs, après tout, vouloir des routes, c'est pas non plus un péché. Je veux dire, à partir du moment, voilà, c'est comme vouloir électrifier les lignes de train. Moi, mon port d'attache, c'est Royan. D'accord ? Bon. Ben, je hurle parce que Dominique Busseau, pour ne pas le nommer, deux fois ministre des Transports, n'a jamais électrifié la ligne Angoulême-Royan. De temps en temps, je me dis, mais quand même, attends, voilà. Donc, chacun a ses contradictions, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas mal, en l'occurrence, mais c'est ça qui demande. Et un préfet, il doit satisfaire les élus. Pourquoi ? Parce que les élus sont légitimes. Pourquoi ? Parce que c'est la démocratie, etc., etc. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas un changement profond de mentalité, voilà ce que c'est une réponse courte, hein, parce que j'ai plus le temps, mais c'est un sujet très, très intéressant et c'est un sujet vraiment et qui doit être complètement, comment dirais-je, porté dans cette loi 5D.
Merci beaucoup. Merci.